Et ce que j'aime dans cette clairière, c'est que si nous voulons vraiment voir le ciel, il faut regarder en haut. Tout à fait en haut. Tu ne peux pas le voir de chaque côté, mais tu le vois en haut. Bien souvent, on ne lève la tête que pour voir là, dans le lointain, mais directement en haut. C'est pour ça que j'appelle notre cathédrale, c'est comme un dôme. Et le Seigneur nous regarde. Il nous enveloppe de son regard à lui. Alors nous voici au vendredi matin, 29 juillet 88, ayant à considérer l'épilogue de ce merveilleux livre de Job, épilogue qui est écrit en prose, comme l'était le prologue, alors que tous les discours, que ce soit ceux des trois amis de Job, les consolateurs, ou que ce soit toutes les réponses de Job, ou que ce soit les discours d'Éliu, ou encore les réponses de Dieu à Job, tout est écrit en vers. Mais comme nous le rappelons chaque fois, ce matin, nous terminons cette étude que nous avons intitulée « Connais-toi toi-même ». Certains se demandaient ce que ça pouvait bien avoir à faire avec le livre de Job. Parce que nous avions précisé que c'était à la lumière du livre de Job et non des philosophes grecs que nous traiterions notre sujet. Il ne serait pas parlé de Platon ou de Socrate ou de la Pythie de Delphes qui rendait ses oracles au temple d'Apollon à Delphes où il était inscrit sur le fronton « Connais-toi toi-même ». Bien non, c'était à la lumière du livre de Job. Et cela étonne parce que pour plusieurs, le livre de Job, c'est un traité sur la souffrance. Cherchez le pourquoi de la souffrance, puis vous n'avez pas de réponse. Tandis que la vraie réponse, eh bien nous l'avons quand l'Esprit nous fait discerner l'intention de Dieu qui nous a donné ce livre dans un but très précis. Pour que nous aussi, si nous apprenions à nous connaître nous-mêmes, car c'est bien cela qu'il manquait à Job, et c'est là que vous avez la vraie réponse à toutes ces épreuves. Job n'avait pas renoncé à lui-même, il était un saint homme, il était pieux, il était droit, il craignait Dieu. Mais dans cette religion qu'il avait, il se complaisait et il se sentait évidemment supérieur aux autres, de sorte qu'il lui était facile de juger tous les autres, en premier lieu ses amis, et de les trouver injustes. Et comme ses amis n'avaient pas pu lui dire le pourquoi de ses épreuves, eh bien, finalement, il y a donc un responsable. Qui est le responsable? Eh bien, si ce ne sont pas les hommes, c'est Dieu. Parce que quand même, si Dieu est Dieu, il peut toutes choses, alors pourquoi permet-il de telles choses? Et de là, finalement, dans un moment de fatigue, d'en arriver à douter de la justice de Dieu, et surtout devant ses amis qui contemplent son malheur, on peut encore supporter notre propre malheur, mais quand on devient l'objet d'une contemplation, qu'on nous regarde, Alors on se demande ce que les gens pensent et puis l'irritation commence dans notre cœur. Et puis c'est tout ce qui est à l'intérieur qui doit sortir. Et vous savez, mes amis, dans un camp, je voudrais bien vous le dire et bien vous le souligner. On ne doit pas chercher à être populaire. On ne doit pas chercher à se faire aimer. Parce qu'alors, on ne peut pas diriger un camp. Il n'est pas question de se faire aimer. Il n'est pas question d'attirer les sympathies de petits ou de grands. Il est question d'être vrai, d'être dans le Seigneur et au service du Seigneur. Nous ne connaissons personne selon la chair et nous voulons conduire les âmes à avancer spirituellement. Et nous l'avons dit, nous suivrions à l'école de Jésus les enseignements de sa parole et cette parole, nous la croyons inspirée de Dieu, est toujours utile pour nous corriger, pour nous convaincre, pour nous enseigner, parce que nous ne sommes pas des arrivés. Nous avons, comme je disais ce matin, peut-être une foule de qualités, une foule de possibilités, mais veillons et ne dépassons jamais notre mesure. Il ne me viendrait pas à l'idée de vouloir faire des choses ici dans le camp que je suis absolument incapable de faire ou que je ferai mal. Il y en a d'autres qui peuvent le faire mieux. Alors, ne nous jalousons pas, ne pensons pas que quelqu'un qui aurait des responsabilités spirituelles est plus excellent que celui qui a les responsabilités matérielles, car que ferait celui qui a les responsabilités spirituelles si les questions matérielles ne marchaient pas? Comprenez-vous? Nous avons besoin les uns des autres. Vous avez tous une valeur infinie aux yeux de Dieu. Alors il n'est pas question de jalousie. Voudriez-vous prendre ma place? Prenez-la, je vous la laisse. Seulement, ça ne sera pas Mahanaïm. Parce que si Mahanaïm n'existe plus, nous n'admettons pas une succession qui s'appellerait Mahanaïm. Pour la bonne raison que nous avons une vision. Et quand on passe, soi-disant, nos pouvoirs, d'abord nous n'avons pas de pouvoir, à quelqu'un d'autre, toutes les œuvres qui ont eu une certaine ligne, un certain impact, quand on les a données à d'autres, eh bien, ça n'est pas resté dans la ligne. Et là, j'ai l'exemple d'une femme qui a influencé ma jeunesse et qui s'appelait Adèle Pella. J'ai encore le goût de son chocolat dans la bouche. J'avais 14 ans. Adèle Pella qui a fondé ce qu'on appelle à Genève l'étoile, qui était le moyen de la conversion d'une multitude de jeunes. Elle avait 20 ans quand elle a commencé. Eh bien, elle a fait cela pendant 50 ans. Elle s'est donnée entièrement. Il y a eu des avocats, des médecins qui avaient passé chez elle quand ils avaient 14, 15 ans, qui se sont convertis. Il y a même eu un président de la Confédération suisse qui était un des enfants spirituels d'Adèle Pella. Mais elle a compris, quand elle devait se retirer, eh bien, ça avait été sa vision. Quelqu'un pouvait prendre autre chose, quelqu'un pouvait faire une œuvre, mais il fallait qu'il soit appelé à cela. Mais on n'appellerait plus cela l'étoile, parce que ça dégénère. Regardez le mouvement des... Comment ça s'appelle? Oui, n'est-ce pas? Le commencement était très spirituel. Et qu'est-ce que ça est devenu? Je ne veux pas être négatif, n'est-ce pas? Mais il y a des œuvres qui ont très bien commencé, et puis après, eh bien, quand sont morts ceux qui avaient vraiment reçu la vision et qui payés de leur personne, de leur bien et de tout, eh bien, sont partis. Bien, ces œuvres, c'est devenu quoi? Je pense à une autre œuvre. Parmi les lépreux, on vous a parlé de la lèpre. Et je me souviens toujours de celui qui a fondé le sanatorium de la Valbonne, la Chartreuse de Valbonne. Eh bien, il avait eu cette vision pour les Français qui rentraient des colonies et qui étaient atteints par la lèpre, et la lèpre se déclarait quand ils étaient de nouveau dans leur pays, et ils faisaient des conférences, ils étaient missionnaires pour les lépreux, et un soir à Paris, il a vu quelqu'un qui l'attendait à la sortie, puis qui lui a dit, vous, c'est très bien, vous faites des conférences pour les lépreux, mais moi je le suis, et je suis ici, dans le pays, et je n'ai personne, je ne sais pas où aller. Alors, il a eu cette vision et il a fondé la chartreuse de Valbonne. Pour les lépreux, c'était une chartreuse désaffectée, et là a commencé cette œuvre. Mais c'était une œuvre de foi. Et comme c'était une œuvre de foi, elle était soutenue par des dons volontaires. Tant que c'était comme cela, il y a eu vraiment de grandes bénédictions. Mais à un moment donné, eh bien, les œuvres grandissent, et puis tout à coup, on pense que Dieu va être à court. C'est vrai, hein? Et alors il faudrait un soutien. Puis ce serait quand même bien d'être reconnu. Et reconnu par qui? Par l'État. Et l'État fait partie de quoi? Du monde. Et qui est le prince de ce monde? C'est Satan. Et alors, Satan veut bien reconnaître les œuvres religieuses. Ah oui, c'est tout à fait d'accord de reconnaître les œuvres religieuses. Et il est d'accord aussi de les financer. Et alors, on n'a plus de soucis matériels. Et alors, quand l'État commence à financer vos œuvres, qu'est-ce qui arrive? Fini. Vous n'allez pas parler du Seigneur. Vous n'allez pas parler du Seigneur dans ce sana. Or, le but, c'était pas seulement de soigner la lèpre, c'était de soigner les âmes. N'est-ce pas? Eh bien, dès que la sécurité sociale est entrée là-dedans, eh bien, c'était bouclé. Et le fils du fondateur, qui était un ami que je connaissais bien, quand on a commencé les camps GBU, des groupes bibliques universitaires, au temps où justement c'était les temps héroïques de ce commencement en France, j'ai fait tous ces premiers camps à Valbonne, eh bien, le directeur me disait, tu sais Gaston, hein, nous on n'a pas le droit de prêcher aux lépreux, hein, mais puisqu'ils désirent venir t'écouter, tire à boulet rouge. Voilà, j'entends encore son expression. Tire à boulet rouge parce que eux, ils pouvaient toujours se laver les mains, dire, oui, ils ont entendu parler de Dieu, mais c'est pas à nous qui avons parlé. Hein. Ils ont voulu aller écouter une conférence des GBU. Mais là, je pourrais vous en raconter long là-dessus. Mais c'est une expérience. Est-ce que Dieu n'a pas les moyens de nous donner ce qui est nécessaire. Vous voulez les subsides de l'État, vous les aurez. Mais vous n'aurez pas le droit de parler du Seigneur. Et alors, c'est le même problème en Israël. Je vous ai lu la lettre de la sœur du père Jean Roger qui veut me voir en venant à Montréal au mois d'octobre. Le grand guide de Jérusalem qui est auprès du Seigneur, mais dont le corps, la dépouille des et des reposes à Jérusalem. Eh bien, sœur Marie-Louise, qui a assisté Jean Roger dans son dernier moment, et qui est la directrice de l'hôpital Saint-Louis des Français à Jérusalem, qui est devenue la terminale des cancéreux d'Israël, elle me disait, mais Gaston, on ne peut pas, on n'a pas le droit, parce que ce sont des juifs, hein, de leur parler du Messie. On n'a pas le droit de leur parler. Et les rabbins sont là, et c'est quelque chose. Alors, ces femmes me disaient, nous ne pouvons prêcher que par nos vies. Le secret de ces jeunes, et j'en ai vu, il y avait bien des nationalités, et c'est merveilleux là, d'aller là, parce qu'il y a des femmes de Malte, il y en a de France, il y en a d'Irlande, il y en a d'un peu partout, qui se sont consacrées, elles sont jeunes encore, elles ne voient que des gens qui meurent, eh bien, elles les soignent avec un dévouement, à un tel point que ces juifs leur demandent la raison de l'espérance. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Vous pourriez vous être belle, vous auriez pu vous marier, vous pourriez faire tant de choses. Puis pourquoi est-ce que vous êtes là pour nous assister jusqu'au dernier moment? Eh bien, quand on peut dire c'est à cause de votre Messie, vous savez, ça fait quelque chose. Hein. l'heure vient où peut-être leurs lèvres se délient. Mais avant d'avoir pu prononcer le nom sacré, elles ont manifesté la vie de celui qui les habite. Et voyez-vous, c'est cela, comme on parlait de Mère Teresa, elle est habitée, on le sent, on le voit. Son étiquette religieuse n'a pas d'importance et vous n'avez pas à juger. Ce qui compte, c'est sa vie personnelle avec Dieu. Et le Seigneur vous a bien averti, hein. Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et puis, quand on lui disait « Tes frères, tes sœurs, ta mère te cherchent », qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Et il avait aussi un regard circulaire, hein. Regardant tous ceux qui étaient autour de lui, il dit, celui qui fait la volonté de Dieu, c'est lui qui est mon frère, ma sœur, ma mère. Que c'est beau, à l'école de Jésus, comme on est gardé de devenir sectaire. Que ces choses n'entrent pas dans une oreille et ressortent de l'autre. Mais que vous vous sentiez atteint en plein cœur. C'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre dans cette dernière journée à la clairière des Indiens. Est-ce que nous avons appris à nous connaître nous-mêmes par ce livre de Job? Est-ce que vous vous souviendrez, quand vous serez hors du camp, parce que c'est une des questions à laquelle je répondrai, on me dit, mais vous voyez, quand on est dans le camp, on est heureux. Quand on est dans le camp, on est dans une ambiance, on se comprend, mais une fois hors du camp, voilà que c'est plus la même chose. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vivre une espèce de prolongation du camp, hors du camp? Parce qu'alors, cela vous dit, cela vous fait dire, oui à Mahanaïm, oui à Mahanaïm, oui à Siderlot. Puis les gens qui n'y sont pas allés, ils râlent. Et puis ils prennent Siderlot, ils prennent Mahanaïm en grippe. Et ils vous disent avec un petit sourire narquois, alors vous croyez qu'il est là? Il est qu'à Mahanaïm, le Seigneur, il n'est pas aussi là. Ben vous ne l'avez pas volé, vous n'aviez pas besoin de parler de ça. Vous aviez besoin de parler du Seigneur, et non pas d'un certain groupe qui s'appelle Mahanaïm, parce que on veut réaliser le camp de Dieu, on cherche à s'aimer les uns les autres, indépendamment de notre milieu. Parce que vous voyez, presque tous les camps au Québec sont des camps d'église. Chacun a son église, chacun a sa maison, chacun a sa boîte, et on travaille à remplir sa boîte. Bien, nous n'avons pas de boîte. Nous voulons remplir les cœurs. Et puis après, bien, vous direz où le Seigneur vous conduit, où vous serez réellement reçu dans le Seigneur, et où vous pourrez vous épanouir et vraiment faire des progrès dans la grâce de Dieu. Ce qui nous réjouit, c'est de penser que si vous êtes fidèle, le Seigneur peut vous conduire dans le milieu où vous serez épanoui. Ou si vous êtes déjà dans un milieu, eh bien comprenez que vous avez à y apporter autre chose que ce que vous avez fait jusqu'à présent, et qui était peut-être surtout un esprit critique et un esprit de jugement. Job savait juger les autres, mais il ne savait pas encore se juger lui-même. Et c'est la grande leçon qu'il a appris et que nous ne trouvons vraiment qu'à la fin du livre. C'est pourquoi il faut de la patience. Il y en a qui ont trouvé que les premiers chapitres, c'était un peu décourageant, mais je ne pouvais pas les supprimer. Je ne pouvais pas dire autre chose que ce qui était dit dans les premiers chapitres. Ah oui, les épreuves, ça vous impressionne. Mais après, quand vous voyez Job qui saute, qui n'en peut plus,
ça le bouillonne, n'est-ce pas? Et puis, il va sauter, il va éclater. Mais il éclate. Mais qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle le fond de son cœur. Et alors, il faudra tout ce temps où il se sentira repris par ses amis. Mais il n'acceptera pas. Et finalement, eh bien, Dieu lui enverra un Élihu qui le prépare à entendre Dieu lui parler lui-même du sein du tourbillon, ce Dieu qu'il a suspecté d'être injuste. Lui-même se disant, mais moi, si j'étais à la place de Dieu, je ferais mieux. Vous avez compris cela? Si j'étais à la place de Dieu, je ferais mieux. Ça se passerait autrement si j'étais Dieu, mes amis. Ça se passerait autrement si vous étiez Dieu. Dieu lui dit, je te laisse mon trône, dirige le monde. Vas-y. Commande à l'hippopotame. Domine le crocodile, le léviathan. Conduis les astres. Fais lever le matin. Fais descendre les ténèbres et la nuit. Puisque tu es Dieu, puisque tu sais mieux faire que moi, je te laisse mon trône. Et c'est tellement vrai que Dieu a laissé son trône et qu'il est venu vivre sur la terre pour y apporter la paix. Et qu'est-ce que les hommes lui ont fait? Ils l'ont crucifié. Ils l'ont fait mourir. Et ils ne se rendaient pas compte qu'en le faisant mourir, ils perdaient tout. Comme ceux qui l'ont chassé du pays des Gadaréniens parce qu'ils avaient perdu 2000 cochons. On préfère nos pourceaux au Seigneur. Voilà le fond de notre cœur. Et pourtant, ils avaient des malades. Mais les malades, ça passe en second. Les pourceaux en premier. Alors, ils chassent le Seigneur. Quand il revient un peu plus tard, parce que justement, lui devait partir, mais il n'a pas permis aux guéris, aux démoniaques guéris, de partir avec lui. Il ne lui a pas permis de retourner avec lui dans la barque. Il dit, non, moi je dois partir, mais toi tu vas rester. Et va, dis au tien, dis-leur ce que j'ai fait pour toi. Et il a été fidèle, il a dit partout, dans la Décapole, ce que le Seigneur avait fait pour lui, de sorte que c'est lui qui a préparé le retour du Seigneur. Quand le Seigneur, plus tard, est revenu au pays des Gadaréniens, il a dit, et ils le reconnurent, et ils lui apportèrent leurs malades. Ils n'ont plus parlé des pourceaux. Mais tout à coup, ils se sont souvenus de tous les malades qu'ils auraient pu apporter la première fois et qui auraient été guéris. Et il a dit que le Seigneur les guérit tous. Eh bien, voyez-vous, il faut que tous ces récits bibliques ne soient plus dans les évangiles ou dans l'Ancien Testament, mais qu'ils deviennent réalité et vie et qu'ils nous enseignent. Alors, voulons-nous encore dire une fois de lui? Par lui, pour lui, sont toutes choses. À lui, la gloire au ciel des siècles. Pas à Mahanaïm, la gloire. Pas à un homme, la gloire. À lui, la gloire au ciel des siècles. Amen. Non point à nous, psaume 115, non point à nous, mais à ton nom, donne gloire. Et alors, le verset clé aussi que nous avons lu, et c'est le dernier moment, verset 6 du chapitre 55, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est proche, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme inique de rien ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, et à notre Dieu, qui pardonne abondamment. Est-ce que vous voulez vivre dans le sentiment du pardon de Dieu? Dieu vous pardonne, vous recevez l'absolution, il vous pardonne, mais pour que vous pardonniez. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas mes voix. Oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, regardez, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et maintenant, je m'en vais plus loin, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. Est-ce que vous croyez que c'est vrai ça? La pluie n'y retourne pas. Elle fait germer, elle féconde les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Et je veux bien croire que vous avez compris que ce n'était pas une parole qui sortait de la mienne de bouche. Mais ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Bien ça, c'est ma confiance. Et c'est mon seul désir, c'est ma seule joie, c'est de penser que Dieu est fidèle à sa parole et qu'il le fera. Alors, on dit le verset 12, oui, vous sortirez dans la joie. Le camp va finir. Eh bien, je dis oui, nous sortirons dans la joie. Et non pas avec des mouchoirs en pleurant, quel dommage que ce camp finisse, etc. Ne vous abandonnez pas à cette sensibilité médiocre. Vous avez été ici, vous avez été préparé par le Seigneur. Nous nous aimons les uns les autres, mais nous continuons la course. Nous n'allons pas nous arrêter à pleurer dans nos Kleenex. Alors, oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans le trouble, dans le regret, dans la paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Les montagnes et les collines éclateront et en acclamation devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. C'est beau. Vous les voyez qui sont en train de battre des mains. Là, ceux qui vous ont vu, qui vous ont observé à la clairière des Indiens, vous vous en souviendrez, hein. Quand vous avez un moment de dépression, est-ce que les arbres de la clairière battent des mains pour moi? Est-ce qu'ils sont contents, les arbres, de ce que je suis en train de penser et de dire? Il y a des arbres qui sont témoins. Je vous ai dit, quand j'ai pris en témoin les bouleaux, il y a eu une aurore boréale derrière moi. Alors les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des buissons, s'élèvera le cyprès. Vous pensez, mais voilà, nous allons retourner chez nous, puis c'est que des buissons. Et pourquoi est-ce que vous ne trouveriez pas les cyprès chez vous? Au lieu de l'ortie, oui, je vais y retourner chez moi, mais c'est les orties. Je m'en mets dans les orties. Faut pas pousser la grand-mère dans les orties. C'est ce qu'on dit en France. Mais au lieu de l'ortie, croîtra la myrte. Et ce sera pour l'Éternel, quoi? Mahanaïm, c'est pour l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel, pas pour des hommes, pas pour un certain groupe, mais ce sera pour l'Éternel une renommée. Donnez la renommée à votre Seigneur, un signe perpétuel qui ne sera pas retranché, il n'y a pas de fin à cela. Vous ne trouvez pas que c'est beau la parole? Est-ce qu'elle a un écho dans vos cœurs? Alors mes amis, nous allons rendre grâce. Seigneur, nous te demandons maintenant pour terminer ta bénédiction et ta grâce, que tu nous donnes de dire juste ce que tu veux qu'il soit dit et que ta parole s'accomplisse en chacune de nos vies. Amen.
Mais bien aimé, hier matin, à la fin du premier discours de l'Éternel, répondant à Job du sein du tourbillon, nous avons vu que Dieu n'est pas entré en discussion avec Job. Il s'est borné à lui montrer, lui donner les preuves de sa toute-puissance et de sa toute-science. Il est le tout-puissant et il est celui qui sait tout. Et on a l'impression que Job a été comme étourdi quand il a entendu les questions de Dieu. Il a dû commencer à rentrer en lui-même, lui qui savait tout, qui pouvait enseigner ses amis, qui en savait plus qu'eux, qui avait toute espèce d'argument. Quand il s'est trouvé dans la présence de Dieu, il avait tellement réclamé cette présence, eh bien, il était étourdi de ce qu'il entendait. Et puis, il a commencé à se rendre compte qu'il était peu de choses. Jusque-là, il n'admettait pas qu'il était peu de choses. Vous savez, tant qu'on n'a pas rencontré le Seigneur d'une façon très vivante, tant qu'on a seulement entendu parler de lui, on n'a pas encore l'impression d'être peu de choses. Parce qu'on s'est converti, parce qu'on a dit son oui au Seigneur, on a l'impression d'avoir fait une grande chose. Il nous doit quelque chose. On s'est décidé pour lui, alors que c'était une grâce. Et je voudrais vous faire remarquer que tout, vous l'avez remarqué vous-même, cet admirable discours de Job se présente sous une forme de question. Est-ce que vous les avez comptées? Dans le chapitre 38 et 39, il y a environ combien de questions, en gros? Alors dans tout. Oui, mais il y en a au moins 50, hein, à peu près, dans les deux premiers chapitres. Et puis, si vous allez au chapitre 40 et 41, vous arrivez à ce nombre de 77 questions. Ça dépend des traductions, n'est-ce pas? Mais c'est environ 77 questions, oui, que Job a dû entendre. Alors, essayez de trouver les réponses. Et c'est remarquable, vous voyez, Dieu n'a pas répondu à sa demande, il n'a pas voulu discuter avec Job de questions doctrinales. Il lui a posé des questions. Et ces questions ont fait que Job est rentré en lui-même, ce dont il avait terriblement besoin. Qu'est-ce qui a fait rentrer en lui-même le fils prodigue? C'est une autre question qu'il s'est posée à lui-même. Que d'esclaves de mon père sont mieux que moi? Ils ont du pain en abondance. Puis moi, mais pourquoi est-ce que je suis là? Alors il a commencé à rentrer en lui-même, mais à cause des circonstances. Tandis que Dieu fait rentrer Job en lui-même en lui montrant sa grandeur et sa puissance. Et si vous lisez l'Écriture depuis la première page, vous verrez que c'est une manière que Dieu emploie souvent, de poser des questions. Adam, où es-tu? Nous l'avons dit hier. Ou d'autres questions encore. Qui t'a montré que tu étais nu? Et en autre question, as-tu mangé du fruit dont je t'avais interdit de manger? Et à Ève, il lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Il questionne. À Caïn, où est Abel, ton frère? Mais avant, il lui avait dit, avant qu'il tue son frère, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Et il lui avait parlé, il lui avait dit, mais si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé comme Abel? Je ne fais pas de favoritisme. Et au lieu de se soumettre à la volonté du Seigneur, eh bien, Caïn a tué son frère par jalousie.
Et alors, à Sarah aussi, c'est par une question qu'il éveille sa foi quand il dit, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel, chapitre 18. Alors, vous pouvez continuer les questions de Dieu dans la Bible. Et nous arrivons à la première réponse de Job. Dans certaines Bibles, elle est encore, cette réponse, au chapitre 39 et d'autres au chapitre 40, parce que la numérotation n'est pas toujours la même. Alors nous lisons là, au chapitre 40, « L'Éternel reprit la parole et dit, « Le discutailleur va-t-il faire un procès au Tout-Puissant ? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réponse à cela ?» Job répondit à l'Éternel, « Voici, je suis peu de chose. Que te répliquerai-je ? Je mets la main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus, deux fois, je n'ajouterai rien. » Ça, notez bien, et vous verrez la différence entre la première réponse et la seconde réponse. Là, Job n'est pas encore brisé. Il a entendu et il commence à comprendre qu'il est peu de choses. Jusque-là, il se croyait beaucoup. Il se croyait important, il se croyait peut-être indispensable. Et quand il entend le Seigneur, eh bien, il comprend qu'il est peu de choses. Darby dit, voici, je suis une créature de rien. Que te répliquerai-je ? Je mettrai ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Et deux fois, je n'ajouterai rien. Mais ce n'est pas encore un homme brisé pour parler ainsi au Seigneur. Je ne te répondrai pas, au fond. Il est certainement humilié, mais ce qu'il comprend dans le premier discours du Seigneur, il a compris son incapacité. Et je vous demande, est-ce que vous avez compris votre incapacité ? Est-ce que moi, j'ai compris pendant ce temps, tout en vous parlant de Job, mon incapacité ? Eh bien oui, je l'ai compris. Et j'ai dû me traîner, vraiment, pour continuer le camp, dans une supplication de tout mon être au Seigneur, parce que je me sentais incapable d'arriver au bout. Et cette incapacité, elle était quotidienne. Et il fallait toujours regarder au Seigneur pour la leçon suivante. Et c'est cela qui nous amène à une entière dépendance de lui. Parce que sans ça, on se croit capable. Et le jour où vous vous croirez capable, ça sera la faillite. Croyez-le bien. Quand Moïse s'est cru capable de délivrer Israël, il a tué et il est parti en exil. L'apôtre Paul dit, notre capacité vient de Dieu. Il faut bien comprendre cela. Hein. Notre capacité vient de Dieu. Paul l'a réalisé. Il n'est capable de rien. Nous ne croyons pas que nous sommes capables. C'est pourquoi nous disons que tout est grâce. Et quand nous avons accompli un service, à l'école de Jésus, nous avons appris à dire, je suis un serviteur inutile. Nous n'avons fait que ce que le Seigneur nous a commandé. Et voyez-vous, on est toujours humilié parce qu'on se dit toujours, mais j'ai essayé de faire, mais est-ce que j'ai fait tout ce qu'il m'a commandé ? J'ai fait peut-être que partiellement. Je l'ai fait avec vraiment mon insuffisance, mais je me confie en Dieu et en sa miséricorde. Qui est suffisant pour ces choses ? Disait l'apôtre Paul. Nous nous sentons toujours insuffisants, de sorte que si nous ne savions pas qu'il y a la grâce de Dieu, eh bien nous ne continuerions pas. On ne peut pas continuer si on y va avec la chair. La chair, elle se croit forte, puis tout d'un coup elle craque, puis quand elle a craqué, on se décourage. Mais le Seigneur nous avait averti, la chair elle est faible. L'esprit est prompt, on veut toujours faire ceci et faire cela, mais la chair est faible. Et cela, nous ne devons pas nous en étonner, et nous devons arriver même à ne plus en souffrir quand nous le constatons. Le Seigneur nous dit, mais je te l'avais dit. Alors, il nous reprend, mais il nous reprend avec amour. Donc, la réponse de Job, la première réponse au discours de Dieu, n'est pas très, très satisfaisante. Mais enfin, c'est le commencement, et il ne faut pas mépriser les petits commencements. Et le Seigneur continue, verset 6, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête, et il somme Job, eh bien, oui, eh bien, mets ta ceinture, et puis, comme un homme vaillant, je pourrais t'interroger, tu m'instruiras. Veux-tu réellement annuler mon jugement? Me condamneras-tu pour te justifier? As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne? Orne-toi de fierté et de prestige, revêt-toi d'éclats et de magnificence, répands les flots de ta colère, regarde tous les orgueilleux et abaisse-les, regarde tous les orgueilleux et courbe-les, écrase sur place le méchant. Et vous voyez, il montre les orgueilleux, hein, d'abord, cache-les tous ensemble dans la poussière. Et c'est là qu'il introduit Béhémoth, qui est, entre autres choses, parce qu'il y a d'autres encore, d'autres sens à Béhémoth. Mais vous avez le sens premier, c'est vraiment ce que l'on voit quand on étudie un peu l'animal, c'est ce que l'on voit chez l'hippopotame. Ça, c'est une des choses. Mais nous pensons que vraiment, le Seigneur a voulu prendre cet animal comme exemple de cette mort à laquelle personne ne peut être soustrait. Vous voyez, il est dit, alors l'amour est fort comme la mort, n'est-ce pas? Eh bien oui, il y a une force là dans l'hippopotame qui est semblable à cette force de la mort. Et tout l'ensemble de ses muscles, de ses cuisses, tout cela montre que on ne peut pas lutter contre la mort. Donc il a été souvent question du séjour des morts. Mais nous ne faisons que effleurer le sujet. Et nous avons vu le second ennemi. Le premier, c'est la mort, hein, le premier ennemi qui sera détruit, ou c'est le dernier aussi, c'est la mort. Nous voyons dans les Corinthiens, chapitre 15. Maintenant, il y a le crocodile, nous en avons parlé, et qui représente vraiment notre plus grand ennemi, c'est Satan, qui est à l'origine de tout ce qui s'est passé pour Job. Le serpent fuyard. Je ne reviens pas là-dessus, nous l'avons simplement ébauché, mais vous-même, vous comprendrez qu'on n'essaye pas de lutter avec le diable. Nous croyons qu'en Jésus-Christ, il est vaincu. Et nous avons la victoire sur Satan si nous restons en Jésus-Christ. Mais si vous prenez Jésus-Christ simplement avec vous, oui, vous êtes venu au camp Mahanaïm, c'est formidable. Ici, vous avez réalisé des bénédictions, mais vous repartez avec Jésus au bras. Mais vous retournez dans votre milieu, et dans votre milieu, ben, c'est un milieu tout différent, il n'y aura pas du tout l'ambiance Mahanaïm. Et si vous n'avez qu'un Christ extérieur, oui, vous avez appris beaucoup sur le Christ, mais vous ne l'avez pas vraiment reçu en vous, c'est un Christ qui reste encore extérieur, eh bien, vous serez vaincu. Il faut que le Christ soit en vous, caché en vous, et que vous soyez caché en lui. Vous devez avoir une vie secrète avec le Seigneur quand vous rentrerez chez vous. Et alors, il y aura de la bénédiction. Vous réaliserez que ce n'était pas un temps court ou momentané que vous avez connu ici, mais le départ d'une vie vraiment nouvelle et qui peut se prolonger. Le Seigneur est le même hors du camp que dans le camp. Mais alors, comprenez-le bien, il faut que vous ayez réalisé que depuis votre conversion, ça n'a pas supprimé le péché. À votre conversion, vous avez compris que vous ne seriez pas jugé à cause de vos péchés puisque le Christ les a portés en son corps sur le bois. Vos péchés ont été expiés par le Christ. Ça, c'est une vérité. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le châtiment qui aurait dû tomber sur vous à cause de vos péchés est tombé sur Jésus qui avait pris vos péchés en son corps sur le bois. De sorte que justice est faite. Les péchés que vous aviez commis dans votre chair ont été jugés dans la chair d'un autre, dans la chair du Christ. Le Christ a revêtu un corps de chair pour pouvoir mourir et pour pouvoir prendre les péchés que vous aviez commis dans votre chair. Il les a pris dans sa chair sans péché et c'est ainsi qu'il l'a expié. Le salaire du péché, c'était la mort. Il est mort pour vos péchés. C'est une chose. Mais il n'est pas seulement mort pour vos péchés passés, présents et futurs, puisque quand Jésus est mort, c'était pour les péchés de toute votre vie. Mais il est mort pour que vous ne péchiez plus. Il est mort pour que vous ayez une délivrance, pour que vous puissiez réaliser qu'il y a une victoire sur le péché. Et alors, pour qu'on ne pêche plus, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il arrive? Qu'on meure. Alors il faut accepter cette mort par la foi. Vous ne vous sentez pas du tout mort. Vous sentez que vous êtes encore bien vivant. Et puis ce que vous devez comprendre, c'est que si Jésus a porté vos péchés et qu'il a subi la condamnation, l'objet de la condamnation, parce qu'il est là, mais vous n'obéissez plus au péché. Le péché est là, vous êtes conscient de cela, mais pour avoir la victoire sur le péché, que devez-vous faire? Vous tenir comme mort. Et tant que vous vous tenez comme mort, eh bien, le péché n'a rien à dire, il ne peut rien faire pour vous, il ne peut pas tenter un mort. Le péché ne tente pas un mort, il a pu tenter le vivant, mais si vous, par la foi, c'est Romains 6, vous vous tenez comme mort, le péché ne dominera plus sur vous. Vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. La grâce de Dieu qui vous fait aimer le Seigneur, et qui vous fait dire, mais ces commandements, en réalité, ils ne sont pas pénibles. Mais, vous ne pouvez pas penser que votre chair sera capable de lutter contre le péché. Vous avez encore la chair, vous avez une nouvelle nature. Mais la nouvelle nature, eh bien, elle est là, elle ne pêche pas la nouvelle nature, mais il y a encore la chair. Le vieil homme, c'est-à-dire votre ancienne manière de vivre, a pris fin à la croix. Votre vieil homme a été crucifié. Qu'est-ce que c'est que le vieil homme? C'était mon ancienne manière de vivre quand j'étais sous la domination du péché et de la chair. Le péché et la chair enfantaient le vieil homme. Le vieil homme, c'est l'être irrégénéré. Avant ma conversion, j'étais irrégénéré. Et cet être irrégénéré s'appelait le vieil homme. Maintenant que je suis au Seigneur, ce vieil homme a été crucifié. On ne se crucifie pas soi-même, il a été crucifié. Et dans la foi, je crois que le vieil homme est mort et qu'il a été enseveli avec Jésus dans le baptême. Nous avons été rendus conformes à lui dans sa mort, mais nous le sommes aussi dans la résurrection. Il y a maintenant en vous une nouvelle nature. Il y a le nouvel homme. Et alors, le nouvel homme, il est créé, selon Dieu, en toute justice, sainteté et vérité. Alors, il y a des choses que le vieil homme faisait, que le nouvel homme ne peut plus faire. Et c'est ce que j'appelle que, quelquefois, eh bien, quand un chrétien ment, quand un chrétien pêche, il reprend les coutumes du vieil homme. Mais laissez le vieil homme avec ses coutumes, avec ses habits dans le tombeau. n'allez pas reprendre les habits du vieil homme pour en revêtir le nouvel homme. Le nouvel homme ne peut pas pécher, mais vous pouvez reprendre des habitudes. Alors il y a opposition entre l'homme et ses habits. Alors, quand vous allez prendre les habits du vieil homme pour en revêtir le nouvel homme, qu'est-ce que vous faites? Vous dégénérez. Le nouvel homme, c'est l'être régénéré. Le vieil homme, c'est l'être irrégénéré. Mais quand un chrétien pêche, il dégénère. Il va reprendre ses coutumes. Alors, vous dites non à cela. De sorte que, pour ne pas accomplir les désirs de la chair, qu'est-ce qu'il vous faut? Le Saint-Esprit. Si vous marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. La chair lutte contre l'Esprit, l'Esprit contre la chair. Mais qu'est-ce qui est le plus fort? Est-ce que c'est la chair ou est-ce que c'est l'Esprit? C'est l'Esprit. Alors ne contristez pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est une personne sensible en nous. C'est pas une influence. C'est pas un liquide, le Saint-Esprit. Comme quoi je pourrais en avoir davantage, etc. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et c'est par le Saint-Esprit que la Trinité tout entière vient habiter en nous. Le Père dans notre esprit pour orienter nos pensées. Le Christ dans notre âme. Ce n'est plus moi, ma personnalité, ma vie psychique qui vit, mais c'est le Christ qui vit en moi, dans l'âme. Et puis, le Saint-Esprit qui prend possession de mon corps, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et avant, c'était mes membres qui me dominaient, ces membres, eh bien, je les employais selon mes sens pour pécher. Mais maintenant, je livre mes membres à Dieu. Mon corps, selon Romains 12, est livré à Dieu pour accomplir sa volonté. Le Seigneur avait besoin d'un corps, il l'a demandé à Marie, elle a dit son oui, qu'il me soit fait selon ta part. Voilà ce qu'a dit Marie. Tandis qu'à Ève, il lui a été dit, qu'est-ce que tu as fait? Remarquez bien ça. Hein? À Ève, il lui a été dit, qu'est-ce que tu as fait? Marie, elle dit, qu'il me soit fait. C'est là toute la différence. Et vous voulez toujours faire quelque chose. Et quand vous voulez faire, vous péchez. Ève, elle a voulu faire. Mais elle a tout détruit. Marie, elle s'est laissée faire. Elle nous a apporté le sauveur. C'est merveilleux. Et vous ne pouvez pas faire une croix sur ces choses. Ces choses sont là. Ces choses me pénètrent. Ces choses m'empoignent. Et je veux laisser ma pensée être captivée par ces choses qui m'édifient et qui me donnent force et vie, qui renouvelle ma santé jusqu'à mon dernier souffle. Bien que le Seigneur vous montre que si vous avez confiance en la chair, eh bien, vous ferez l'expérience de ce qu'est la chair. Et comme on l'a lu ce matin, la chair, elle est faible. Je sais qu'en ma chair, il n'habite point de bien. J'ai fait une fois à Jolibé un temps sur ce sujet, en montrant des exemples et en prenant David, un roi qui a écrit des beaux psaumes, hein, et pour un instant où il n'était pas à sa place, sa chair a flanché et il a commis adultère, il a menti et il a tué par main interposée et puis il a camouflé tout cela en épousant la veuve d'Uri. Quel bon roi nous avons. Regardez ce qu'il est merveilleux. Et c'était profondément scandaleux. Et le ciel regardait ce que David avait fait des plus hauts yeux de l'Éternel. Et alors, c'est Nathan qui vient. Et David est très conscient du bien et du mal pour les autres. Et quand il entend la petite parabole, il comprend très bien que l'homme riche qui a pris la petite brebis du pauvre, eh bien, il est digne de mort. Tu es cet homme. Donc, il a prononcé son propre jugement. Mais, alors, il s'est réveillé. J'ai péché. Il n'a pas dit ça comme ça. J'ai péché. Mais c'était vrai. Et il a confessé. Il a confessé. Maintenant, quelqu'un m'a demandé ceci. Je réponds en même temps à vos questions. J'ai parlé de l'introspection, qu'il n'était pas question de vous livrer à l'introspection, parce que l'introspection nous conduit au suicide, mais de dire au Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, selon Psaume 139, et connais mon cœur, regarde s'il y a en moi une voie de chagrin, et conduis-moi dans la voie d'éternité. Et on disait, mets le doigt sur la plaie de mon cœur, et voilà. Alors, le Seigneur fait monter la chose. Et vous savez, ça va loin. Je me souviens toujours d'une femme que je visitais dans un asile psychiatrique. Elle faisait une dépression nerveuse. Et puis, elle m'a dit, un jour, ce qui était monté de son cœur. Alors, qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle voyait le pourquoi de sa dépression. Elle voyait ce qu'il y avait, qui n'avait jamais été jugé chez elle. Mais madame, vous allez vous juger? Appelez cela. Il y a 20 ans, vous avez fait cela, oui, c'est vrai. Je ne veux pas vous dire ce qu'elle faisait. Mais elle faisait ça à son bébé. Elle avait un problème, elle. Puis ayant son bébé, eh bien, oui, ce qu'elle faisait, c'était très mal. Elle lui léchait certaines parties jusqu'à ce qu'elle, elle, ait une jouissance. Hein? Et alors, évidemment, l'enfant a grandi. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand elle a été une jolie fille, eh bien, elle était excitée. Et la mère s'est rendue compte que c'était elle qui avait donné le goût à cela. Et alors, elle a fait une dépression nerveuse. Je peux dire ça parce qu'ils sont morts. Bon. Mais, mes amis, c'est quelque chose. Eh bien, ça a été remonté. Elle l'a confessé. Elle a été libérée. Voyez-vous, je ne dis pas que c'est cela qui va vous monter, c'est pas ça, mais quand quelque chose vous est rappelé, que vous voyez la plaie, eh bien, comment, que devez-vous faire? Vous n'avez pas à vous livrer encore. J'ai dit, ne vous livrez pas à l'introspection, mais demandez au Seigneur qu'il vous montre. Alors le Seigneur vous montre le doigt. On dit, oh non, non, pas ça, Seigneur. Autre chose. Mais, il y a peut-être plusieurs choses. Alors la chose qu'il vous a montrée, confessez-le. Appelez ça par son nom, péché. Il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité. C'est humiliant. Ben oui, ben c'est vrai, Seigneur. C'est ce que je... Mais le Seigneur dit, mais tu as cru que j'étais mort pour rien? C'est tellement facile de dire, nous sommes pécheurs, nous sommes méchants. Mais dire, je suis méchant, c'est une autre affaire. Et c'est cela qu'il faut dire. Je suis méchant, méchant, méchant. C'est vrai de moi. Jésus l'a dit, si vous qui êtes méchants sur la terre, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père Céleste vous donnera-t-il les choses que vous lui demandez? Alors, quand une chose vous est montrée, vous la confessez. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse et qui les abandonne, il obtiendra miséricorde. C'est Proverbe chapitre 27. Croyez-le. Et alors, vous lisez le psaume 32 qui vous montre bien combien on est heureux. Heureux l'homme dont la transgression est pardonnée, dont les péchés sont couverts. L'homme à qui l'Éternel ne compte pas l'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. On a été vrai devant Dieu. Et puis on lui a dit, c'est vrai, ce que tu dis que je suis un pécheur. Et mes péchés ont un nom, bien je les appelle par leur nom, je les confesse. Et c'est ainsi que j'ai la délivrance. Donc, la chair ne s'améliore pas. Et si vous constatez qu'en votre chair, il n'y a point de bien, que votre chair n'a pas progressé, c'est tout à fait normal. Parce que si vous attendiez un progrès dans la chair, vous vous illusionneriez. La chair, elle n'a qu'une place, la croix. Ne soyez pas des chrétiens décloués. Vous avez été crucifiés. J'ai été crucifié avec Christ. ma chair, elle est crucifiée, portant toujours partout dans le corps la mort de Jésus. Là où la vie de la chair voudrait se manifester, je porte la mort. Jésus, tu es mort pour ça. Je porte la mort. Afin aussi que la vie de Jésus soit manifestée dans ma chair mortelle. Chapitre 4 de la deuxième épître aux Corinthiens, verset 11. Il faut réaliser ces choses. Il ne faut plus que ce soit dans vos Bibles, il faut que ce soit en vous. Alors voilà, pour la chair, donc pas d'amélioration. Vous êtes un croyant, un authentique chrétien, mais si vous regardez à ce qu'est votre chair, c'est décourageant. Je sais quand ma chair n'est point de... Alors détournez vos yeux de vous-même et regardez le Seigneur. Je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est lui qui est votre vie, c'est lui qui vous donne de triompher et qui nous donne toujours la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous mène dans le char de son triomphe. Il vous mène en triomphe, manifestant partout l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Maintenant, il y a le monde. On vit dans le monde. Alors, qu'est-ce que le chrétien doit comprendre ? N'aimez pas le monde. N'allez pas vous nourrir à la marmite du monde, hein, où ça bouillonne, comme on l'a vu avec le crocodile, avec Léviathan. Le monde qui est dominé par Satan, il a une marmite et ça bouillonne. Et c'est ça, pendant les jours ouvrables, vous allez vous nourrir à la table des démons. Parce que la table des démons, ce n'est pas une table qui est dans une autre église que la vôtre. La table des démons, c'est la table qui est dans le monde, où le monde va nourrir sa vieille nature. Alors, c'est tout à fait normal que le monde aime ces aliments-là, parce qu'il n'est pas régénéré. Mais une fois que vous êtes né de nouveau, vous avez une autre table, qui est la table du Seigneur. Et c'est entre ces deux tables qu'il ne peut pas y avoir communion. Comprenez-le bien. Ne pensez pas que la table d'une autre église serait la table des démons. C'est trop facile à dire. La table des démons, elle est dans le monde. Aussi dans le monde religieux, bien sûr. Mais la table du Seigneur, c'est la table de notre Père Céleste, où nous n'allons pas simplement communier une fois par semaine, mais où nous allons nourrir notre nouvelle nature tous les jours. Je me nourris de la parole. Je prends le pain des grands, le pain excellent, le pain qui vient du ciel. J'ai une nourriture céleste. Mais le monde ne va pas s'améliorer. Et c'est pourquoi il est dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Qu'est-ce que le monde peut vous donner comme nourriture? Convoitise la chair. Convoitise des yeux. Orgueil de la vie. Et vous savez que le crocodile, là, c'est le roi des orgueilleux. Satan est le prince de ce monde, le prince des fils de l'orgueil. Alors, vous avez compris cela. N'allez pas à la marmite du monde. Souvenez-vous que Satan est un ange de lumière, qu'il fait croire qu'il a de la sagesse, qu'il a la chevelure d'un vieillard. Qu'il est le maître des artifices, mais qu'il est aussi le lion rugissant, à la double gueule, qui voudrait vous dévorer. Il est aussi le serpent sous les fleurs, qui va vous mordre. Alors, connaissez votre ennemi. Il est aussi le grand dragon, qui va être manifesté bientôt. Je vis sur le sable de la mer. Un grand dragon qui se tenait assis. Il attend l'apparition de la bête et du faux prophète et il va leur donner sa puissance. Et nous allons connaître dans ce monde, ou le monde va connaître, la puissance d'une trinité satanique. Alors nous arrivons à la réponse finale. On peut faire 5 minutes ou 3 minutes de détente. Et on finit. Vous avez bien compris qu'on ne lutte pas contre Satan. On se réfugie en Christ et on laisse le vainqueur de Satan mener le combat. Nous sommes sur le trône et nous laissons le Seigneur mener le combat de dessus le trône. Et c'est lui qui a vaincu Satan et qui le mettra bientôt sous nos pieds. Est-ce que c'est nous qui mettons Satan sous nos pieds? C'est le Seigneur. Hein? Vous avez ça dans Romains chapitre 16. Or, le Dieu de paix brisera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Ces choses étant connues, alors nous arrivons à la réponse finale de Job. Vous l'avez lu? Bon. Job répond. Alors voilà la deuxième réponse de Job. Et c'est différent. Je reconnais que tu peux tout. Donc je sais que tu peux tout. Et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi ou que rien ne s'oppose à tes desseins, à tes pensées. Qui est celui qui assombrit mes desseins par des propos dénués de connaissances? Job reprend une parole que le Seigneur lui a dite. Hein. Autrefois, il a dit, qui est, un peu plus haut, qui est celui qui voile mes desseins par des propos dénués de connaissances? Au chapitre 38, au verset 2, il se souvient de cette question. Alors il dit oui. J'ai fait part, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Enfin, il arrive à dire qu'il ne savait pas, qu'il ne connaissait pas. Enfin, il avoue qu'il ne connaissait pas, qu'il a parlé de choses, il a parlé de Dieu, il a voulu expliquer des choses sur Dieu et il ne savait rien de rien au sujet de Dieu. Il ne savait rien encore comme il faut connaître. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît rien encore comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Alors Job arrive vraiment à avouer cela. Et c'est cela, confesser. Alors on confesse au Seigneur son péché et on répare aussi si notre confession touche quelqu'un. On répare auprès de cette personne. Ça coûte peut-être de s'humilier, mais il faut le faire. Et c'est comme ça qu'on est libéré. Parce que si tout à coup, le Seigneur m'a montré une plaie que j'ai fait une malhonnêteté vis-à-vis de quelqu'un. Alors je suis là, Seigneur, tu vois, oui, tu me l'as bien montré, hein, j'aurais pas dû faire ça, ou j'aurais pas dû dire cela. Puis je m'humilie, puis je pense que c'est fini. Non. La vraie confession, elle te conduit à la réparation. Pour que tu sois vraiment libre. Ça coûte quelque chose. Puis tu ne peux pas te dire, oh oui, mais lui, il me devait aussi quelque chose, etc. Vous n'arrangerez jamais rien. Faites le premier pas. N'ayez pas peur de vous humilier devant votre frère. Même s'il ne vaut pas grand-chose. Il est votre frère. Alors, on répare, on confesse et on répare. Dans la mesure où c'est réparable. Mais en tout cas, on reconnaît qu'on a eu tort. J'ai parlé de merveilles qui me dépassent que je ne connaissais pas. C'est si souvent cela. On parle, on parle, on parle. Regardez Job, combien de chapitres il employait pour se justifier. Regardez Dieu. Combien peu de temps il prend pour dire quelque chose qui met Job par terre. Il y a 4 chapitres seulement. Non, 3. Alors il dit, écoute-moi, et moi je parlerai, je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Maintenant, Job comprend qu'il a besoin d'apprendre, qu'il a des questions qu'il n'a pas comprises. Il a besoin d'être instruit. Mon oreille avait entendu parler de toi, et quand on entend parler du Seigneur et qu'on croit, on a la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie, mais qu'elles soient dans l'abondance. La vie en abondance, on l'a seulement quand notre œil l'a vue. Et ça, c'est vrai aussi bien pour Abraham que pour Moïse, que pour Jacob. Tous ces hommes, c'est d'avoir vu le Seigneur qu'ils ont été bénis. Et pour Job, il va recevoir la plus grande des bénédictions. Mais d'abord, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et dans la cendre. Vous voyez, il est arrivé enfin à la repentance. Et ça, c'est le message aux sept églises. Repens-toi, repens-toi, repens-toi. Le Seigneur reconnaît les choses qui sont justes, mais j'ai contre toi. Et alors, il met le doigt sur la plaie, il nous dit ce qui ne va pas. Et c'est là que vous voyez ce que c'est de ne pas se livrer à l'introspection. Mais laissez le Seigneur nous montrer. À toi, Éphèse, voilà ce qui est contre toi. Tu as un tas de qualités, mais tu as abandonné ton premier amour. À Pergame, je sais où tu habites, là où est le trône de Satan, etc. Mais ils lui disent ce qui ne va pas. Il en est de même pour Thyatire. Il en est de même pour Sardes. Il en est de même pour Philadelphie. Il a peu de force. Mais le Seigneur le connaît. Puis il en est de même pour Laodicée. Il nous montre qu'il va pas. Tu es tiède. Et je vous ai dit souvent, ou dans certaines réunions, quelque chose de personnel, quand le Seigneur m'a montré l'état de tiédeur de mon cœur, que je n'étais ni froid ni bouillant, mais tiède, et comment il m'a réveillé à ce moment-là, et combien j'ai besoin sans cesse d'être réveillé, parce qu'on s'attiédit vite. Alors, quand le Seigneur est arrivé à ce qu'il voulait, quand son dessein est accompli, quand on voit maintenant, s'il a relevé le défi de Satan, c'était en bien pour Job. Job allait se trouver justifié des accusations que Satan avait portées contre lui, que c'était par intérêt que Job le craignait. Eh bien voilà que Dieu a donné à Job la possibilité de se justifier de cette accusation, mais pour que Job puisse s'en justifier, il fallait qu'il fasse la preuve que ce n'était pas par intérêt. Alors Dieu lui a permis que tous ses biens lui soient repris, et Job est resté ferme, il a béni Dieu, et il a dit que son nom vraiment soit béni. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Alors, ensuite, comme l'œuvre n'était pas pleinement accomplie, que Job devait apprendre à se connaître lui-même parce qu'il se complaisait dans sa piété. Il a fallu qu'il soit frappé dans sa chair et puis ensuite par l'épreuve de ses amis jusqu'à ce qu'Élie lui soit donné pour préparer l'intervention divine, directe et immédiate. Verset 10. Alors il n'y a plus d'obstacle. L'Éternel rétablit la situation de Job. Mais à quel moment? Qu'est-ce que Job a dû faire d'abord? Quand celui-ci eut prié pour ses amis. Alors ça, c'est merveilleux. Il faudra que Job pardonne à ses amis. Sans ça, il ne sera pas guéri. Quand il est dit qu'il doit prier pour ses amis, est-ce qu'il est guéri? Non, il n'est pas encore guéri. Et c'est ça qui est fantastique. Et alors, les amis de Job ont dû aller devant un Job toujours malade. C'est ça qui est fantastique. C'est un Job qui est encore atteint de sa lèpre, qui va prier pour ses amis. Et ses amis doivent avoir l'humilité d'aller demander au lépreux, enfin, à l'homme plein d'ulcères. Alors vous allez dire, ben alors, comment est-ce qu'il peut prier pour moi et être exaucé, lui, qui est encore dans cet état? Eh bien, Le Seigneur nous humilie. L'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Quand? Mais quand il eut prié pour ses amis. Quand celui-ci eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double. Donc il a dû prier d'abord pour ses amis. Puis il a reçu le double de ce qu'il avait. Et c'est là que vous voyez que Dieu avait compté ses pertes. Et tous ses frères et toutes ses sœurs, toutes ses connaissances d'autrefois, vinrent vers lui et mangèrent avec lui dans sa maison. Donc il est restauré. Tu dresses devant moi une table. Psaume 23. Et ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et ils lui donnèrent chacun une quesita et chacun un anneau d'or. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie ou la fin de Job plus que son commencement, plus que la première. Il posséda 14 000 brebis. Combien est-ce qu'il en avait? 7. 6 000 chameaux, combien est-ce qu'il en avait auparavant? 3 000. 1 000 paires de bœufs, 500. Et 1 000 ânes, 500. Alors vous voyez, il a le double. Mais il eut 7 fils et 3 filles. Combien est-ce qu'il en avait avant? Alors pourquoi pas 14 et 6? Parce que les enfants vivent. Mais c'est quand même le double. Mais alors que les animaux sont morts, hein, il faut mettre le double. Mais pour les enfants, il a le double d'enfants, mais ils sont toujours vivants. Pour Dieu, tous vivent, il n'est pas le Dieu des morts. Et c'est ça qui est beau. C'est ça la parole inspirée. Et alors, il appelle la première du nom de Yemina, la seconde du nom de Ketsia, et la troisième du nom de Kerenapouk. Il ne se trouvait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Qui est-ce qui donne la beauté? Qu'est-ce qui donne la beauté? C'est Dieu, notre Créateur. Et leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères, ce qui ne se faisait pas autrefois. Vous voyez que les filles ont eu un héritage, elles aussi. Alors après cela, Job vécut 140 ans, ce qu'il fait mourir à un âge vraiment respectable. Il vit ses fils, les fils de ses fils, jusqu'à la quatrième génération. Puis Job mourut. Âgé et rassasié de jours. C'est les mêmes expressions qu'on a pour qui? Abraham, n'est-ce pas? Il est mort âgé et rassasié de jours. Eh bien, je termine par le rappel de Jacques au chapitre 5. De l'épître de Jacques. Verset 11. Voici, nous disons bienheureux, ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job, ou de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Ou la fin que le Seigneur se proposait pour lui. Dieu a un propos pour vous. Et ce qu'il se propose, ce sont des choses heureuses. Le Seigneur connaît les pensées qu'il a à votre égard. ce sont des pensées de paix et non de mal pour vous donner un avenir et une espérance. Alors maintenant, on pourrait discuter. Alors, qui a écrit Job? Est-ce que ça vous intéresse vraiment? On ne le sait pas. Il y en a qui pensent que c'est Moïse. Il y en a qui pensent que non, c'est une histoire que l'on se racontait depuis longtemps et qu'aurait mis au point un homme de la cour au temps de Salomon, donc ce qui serait assez tard, après l'an 1000, ou au temps de l'exil, ça aurait été écrit pendant l'exil, donc ce serait quelqu'un qui aurait composé tous ces discours comme ça. Enfin, de toute façon, tous sont d'accord pour dire que c'est un chef-d'œuvre. Cette composition est un chef-d'œuvre. Mais ce que l'on sait, c'est que l'Église, c'est que les Juifs l'ont reconnu comme étant inspiré. C'est entré dans le canon de l'Écriture sainte. Et Jésus, lui, a revêtu de son autorité l'Ancien Testament, donc le livre de Job. Il a parlé, lui aussi, de Jonas. Il a parlé du premier de la Genèse, du chapitre 2 de la Genèse, Jésus. De sorte qu'il reconnaissait l'autorité infaillible de l'Ancien Testament. Il a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. De sorte que il nous importe peu de savoir qui a écrit Job. Il y en a qui ont pensé que c'était Job lui-même, puisqu'on n'a pas de réponse sûre. Pourquoi nous préoccuper de cela? Ce qui compte, c'est que ce livre nous a été donné. Et il nous a été donné pour notre instruction. Avons-nous reçu instruction? Ou bien, est-ce que nous disons, on a fait une étude sur un livre, mais ça ne nous a rien apporté? On le verra ce soir, vous nous direz peut-être, ça ne nous a rien apporté. Est-ce que vous avez des questions? Je me dis qu'on n'a fait que effleurer ce livre. Mais je suis quand même très reconnaissant qu'on ait pu le couvrir. Alors, on l'a survolé quelquefois à haute altitude, mais peut-être qu'en regardant par les hublots, vous avez vu quelque chose de très intéressant. Vous l'avez noté. Et alors, vous reviendrez et vous ferez une escale, là. Pour visiter, alors, à pied, tranquillement, le lieu qui vous a intéressé d'en haut. Ce soir, c'est donc votre rencontre, c'est votre réunion. Vous l'arrangez comme vous voulez, en musique ou en témoignage. C'est à vous. Et demain matin, nous nous quitterons, espérant que nous n'avons pas labouré, ni hercé, ni semé en vain. Et que vous aurez appris par les amis de Job, comment on doit approcher une âme, comment on ne doit pas l'approcher. Ce que nous avons à dire, ce que nous ne devons pas dire. Par Élie aussi, la manière d'être. Et surtout que vous aurez compris que certaines choses ont pu être manifestées dans ce camp. Eh bien, souvenez-vous de ce qu'il vous a montré et n'endurcissez pas votre cœur. Nous allons prier. Si quelqu'un parmi vous veut le faire, qu'il le fasse, mais à haute et intelligible voix pour que tout le monde comprenne. On pourrait chanter ensemble « Ouvre le ciel », ceux qui le savent. Ouvre le ciel, tourne vers moi ta face, devant mes yeux, fais passer ta beauté. Mon cœur demande un renouveau de grâce pour plus de flamme et plus de sainteté. Ouvre le ciel, tourne vers moi ta face, devant mes yeux, fais passer ta bonté. Mon cœur demande un renouveau de grâce pour plus d'amour et plus de vérité. Amen.